Voilà, donc je vous présente notre conférencier de ce soir, après cette présentation peut-être un peu trop longue. Il s'agit de Yves Petrov, qui est né en 1937. Il est docteur en sciences. C'est une carrière de chercheur. Il a commencé comme maître assistant à l'Université Pierre et Marie Curie. Ensuite, il a été chercheur et enseignant à l'Université de Berkeley, au département de physique. Ensuite, il est revenu en France pour le CNRS. Et il est actuellement, il est depuis 1993, il est le directeur du synchrotron européen à Grenoble. Sa spécialité, c'est la structure électronique des solides, des surfaces, des supraconducteurs, les lasers électrons et le rayonnement synchrotron. Il va nous parler de l'analyse de la matière avec les rayons X. Il est l'auteur de très nombreuses publications scientifiques dans des revues spécialisées et d'interventions dans des conférences et symposiums internationaux. Je lui donne la parole pour une cinquantaine de minutes et ensuite répondre à vos questions. Merci.
Merci beaucoup pour l'introduction. Effectivement, je vais essayer de parler un peu de rayon X et surtout de rayonnement synchrotron. Je voudrais d'abord dire bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs, et aussi dire que je ne suis pas responsable de vous faire venir au mois d'août. Mais tout compte fait, c'est une manière ou une autre d'avoir la possibilité d'avoir des conférences aussi variées. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une petite introduction sur les rayons X, et ensuite de parler plus spécifiquement du rayonnement synchrotron, parce qu'aujourd'hui, une très grande partie de la recherche qui se fait en rayon X se fait grâce au rayonnement synchrotron, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, j'avais le choix parmi de très nombreux exemples, j'en ai choisi trois, tout simplement parce que c'est difficile d'aborder d'autres thèmes, comme l'imagerie X, les hautes pressions et les structures biologiques. Alors ça, c'est des domaines où les nouvelles sources de rayonnement synchrotron sont vraiment en train d'amener une révolution, en particulier dans le domaine de l'imagerie X. Je vous montrerai ce qu'on peut faire maintenant, et qui est assez exceptionnel. Alors, j'aurais pu parler du magnétisme ou d'autres domaines, mais évidemment, je n'ai pas le temps. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, les rayons X ont été découverts à la fin du 19e siècle, hein, puisque Röntgen a observé vers la fin 95 pour la première fois en particulier la radiographie de la main de sa femme, et il l'a présentée le 28-12-95 à Berlin. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les médias n'existent pas. Or, en quelques semaines, la presse va s'emparer de la nouvelle. Les laboratoires vont refaire en quelques semaines, c'était très facile de fabriquer un tube de Crookes qui servait à faire les rayons X. Et ça va vraiment devenir le joujou à la mode, c'est-à-dire qu'on va en trouver partout, dans les foires, dans les magasins de chaussures. Et voilà une image qui a été faite en Allemagne, mais vous aviez exactement la même chose en France. Dans presque une grande partie des magasins de chaussures, moi j'en ai vu un quand j'étais gamin, boulevard Saint-Michel, et on mettait ses pieds à l'intérieur, on voyait très bien toutes les parties métalliques des chaussures, on voyait très bien les os. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que si on regarde aujourd'hui les images, on s'aperçoit que la qualité de l'image est remarquable. Comme les plaques photo étaient mauvaises, les tubes n'étaient pas bons non plus, ça veut dire que les doses qu'on se ramassait étaient énormes. Et effectivement, il faudra une dizaine ou une quinzaine d'années pour s'apercevoir que les rayons X, ça a d'énormes avantages, et ça a beaucoup servi pendant les 20 premières années à essentiellement faire soit de la thérapie, soit de l'imagerie, mais que ça pouvait avoir des inconvénients. Et c'est vrai que les inconvénients, on les a vus beaucoup plus tard. Alors, pendant une vingtaine d'années, on ne sait pas très bien ce que c'est que les rayons X, c'est pour ça que le Röntgen les appelle X. On ne sait pas très bien si c'est des ondes électromagnétiques ou pas, etc. Il faudra attendre Van Leeuwen en 1912, qui le premier prédit que c'est des ondes électromagnétiques et doivent avoir des longueurs d'onde très courtes, typiquement de la distance interatomique. Et donc, si on envoie des rayons X sur un cristal, eh bien, on devrait avoir la possibilité d'obtenir la structure du cristal. Et quelques mois après, il y a Friedrich et Knipping qui font l'expérience. Et l'expérience est extrêmement simple. Ils prennent un tube à rayon X qui émet un rayonnement qui est polychromatique, Il l'envoie sur l'échantillon, il met derrière une plaque et ils aperçoivent un certain nombre de spots qui correspondent à la diffraction des atomes. Et ça, c'est vraiment la première image que l'on ait de la diffraction par un cristal. Et c'est vraiment une révolution parce que ça va amener par la suite. Toutefois, il faudra attendre un peu plus de temps, et c'est les Bragg qui, un ou deux ans après, vont non seulement obtenir les spots sur un cliché, mais vont obtenir la structure. Et c'est le chlorure de sodium, c'est un système qui est très simple, mais c'est quand même quelque chose qui démarre un domaine complètement nouveau. Alors, il y a une chose qu'il faut voir aussi, c'est que pendant à peu près 40-50 ans, les tubes aréoïques vont très peu évoluer. C'est-à-dire les intensités qu'on arrive à voir avec les tubes restent à peu près constantes. Mais il y a trois choses, à mon avis, qui vont être extrêmement importantes dans cette période-là. La première, c'est que, et c'est tous vers la fin des années 40, la première, c'est que à la General Electric aux États-Unis, il y a des physiciens qui essayent de construire un petit anneau, un petit synchrotron, pour faire l'étude des particules à haute énergie. Et pour la première fois, ils vont observer ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qui est un rayonnement qui est émis par des électrons ou toute particule chargée qui est accélérée. Et vous voyez, la taille de l'anneau est quand même très faible, est très petite. C'est de l'ordre de diamètre, c'est à peu près 30 à 40 cm. Alors ça, c'est uniquement la chambre à vide qui était en verre, d'ailleurs. Il n'y a pas les aimants par-dessus, donc sinon c'est un peu plus gros. Mais on voit quand même que la taille, vous verrez tout à l'heure, si je vous montre le SRF, ça fait 850 mètres de circonférence, c'est plus du tout à la même échelle. Mais c'est la première fois où on observe le rayonnement synchrotron, et ça, c'est quelque chose qui est important. Sauf que, comme la communauté, en général, scientifique, est très conservatrice, pendant 20 à 25 ans, il ne va rien se passer du tout. Et personne ne va chercher à exploiter ce rayonnement qui va devenir une force assez fantastique. La deuxième chose qui est importante, c'est que jusqu'à la fin de la guerre, on n'avait pas d'observation de rayons X émis dans le cosmos, tout simplement parce que l'atmosphère terrestre absorbe les rayons X, et il faut en général aller au-delà de 100 km pour pouvoir faire des observations. Et la première observation a été faite par Friedman du Naval Research Lab, en 1947, avec un V2 qu'il avait récupéré en Allemagne, et ça a été presque un flop. Ce qu'il a observé était très faible. Heureusement, il y a eu d'autres physiciens comme Giacconi au MIT, qui lui a continué, a eu un ou deux échecs, et puis finalement a réussi les premières expériences, et là, ça a été le début d'une science complètement nouvelle, qui est l'astrophysique X et gamma, qui est très complémentaire de ce qu'on voit en visible ou dans les ondes radio. Et voilà le premier satellite qui était Uhuru, qui a été lancé en 71, et immédiatement, on a découvert dans le ciel de très nombreuses et très intenses sources de rayons X. Alors, vous avez le Crab ici, vous avez Taurus, Scorpio, etc. Aujourd'hui, le dernier satellite, enfin un des derniers, en tout cas Rosat, qui a été lancé il y a 8 ou 10 ans, a déjà fait une carte d'à peu près 150 000 sources de rayons X dans le ciel. Et évidemment, il y en a en très, très grosse quantité. Le dernier point important, c'est le fait que, à la fin des années 50, il y a Crick et Watson qui trouvent la structure de l'ADN, et donc c'est le début de la biologie structurale qui va avoir un développement assez extraordinaire. Et donc, ces trois thèmes, à mon avis, on pourrait parler pendant des heures, parce que ce domaine est assez intéressant, mais il y en a qu'un que je vais aborder assez en détail. Enfin, les deux, les structures biologiques aussi, je vais en parler tout à l'heure. Alors, quelles sont les sources de rayons X? Alors, d'abord, je voudrais vous rappeler que les sources de rayons X, c'est tout simplement, comme la lumière visible, des ondes électromagnétiques, sauf que les longueurs d'onde sont beaucoup plus courtes. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une longueur d'onde. Une onde électromagnétique est formée par un champ électrique oscillant et un champ magnétique. Et ça a une forme, par exemple, qui peut être ici, comme ici, qui est sinusoïdale. Et vous avez la distance entre deux crêtes, c'est tout simplement la longueur d'onde. Et le mot longueur d'onde va revenir très souvent. Et ça peut être de l'ordre de mètres ou de centaines de mètres si vous êtes dans les ondes radio ou télévision. Et puis, dans les domaines des rayons X, ça sera à 10-10 mètres, hein, ou même en dessous. Mais en gros, c'est des ondes électromagnétiques, exactement comme tout ce que vous voyez et que vous avez l'habitude de voir. Ce n'est pas dans le bon sens, évidemment. Oui, voilà. Donc, vous avez la toute petite partie qui est visible ici. Peut-être moyen de focaliser un petit peu, pas très bien. Et puis, vous avez l'infrarouge. Puis, de l'autre côté, les micro-ondes. Soit vous les avez dans votre cuisine, soit votre téléphone portable, et les deux font des dégâts. Et puis, vous avez ensuite les ondes radio et les ondes de télévision, et de l'autre côté ici, vous avez les rayons gamma et les rayons X. Donc, on parlera soit de longueur d'onde, de fréquence ou d'énergie, mais ça revient à peu près au même. Alors, comment est-ce qu'on peut produire des rayons X ? Actuellement, il y a trois types de sources. Il y a les tubes à rayons X classiques, je ne vais pas en discuter beaucoup. C'est ce qu'on emploie encore dans les hôpitaux ou dans les laboratoires pour démarrer des expériences et ensuite on passe au rayonnement synchrotron. Vous avez des plasmas qui sont créés par des lasers de puissance qui envoient des pulses extrêmement rapides à l'échelle de la femtoseconde. Ça a des avantages parce qu'à ce moment-là, vous pouvez étudier des phénomènes de temps très très courts. Ça a un défaut, c'est que le nombre de photons que vous obtenez n'est pas très élevé. Il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas faire. Et puis, vous avez la source qui est... Mais dans ce domaine-là, il y aura certainement des progrès dans les années à venir. Et enfin, finalement, vous avez le rayonnement synchrotron. Et c'est un petit peu maintenant ce que je vais discuter plus en détail. Alors, qu'est-ce que c'est que le rayonnement synchrotron ? Ben, toute particule chargée, que ce soit des électrons ou des positrons ou des protons, qui est accélérée ou désaccélérée, émet des ondes électromagnétiques. Ça provient directement de l'équation de Maxwell. Ce mécanisme existe dans le cosmos, et vous avez des très jolies sources de rayonnement synchrotron, comme par exemple les ceintures de Jupiter, ou la nébuleuse du Crabe. Alors, la nébuleuse du Crabe, une nébuleuse, c'est tout simplement une étoile qui a explosé, et donc il y a des débris qui traînent dans le cosmos, qui sont éclairés par les étoiles voisines, et en général, ça permet de voir assez facilement si c'est du rayonnement synchrotron ou pas. Alors, pourquoi ? Que le rayonnement synchrotron a des propriétés de polarisation spécifiques. Et si vous êtes à la montagne, comme par exemple à Grenoble, vous dirigez vers la nébuleuse du Crabe et vous regardez avec des polaroïdes, vous pourrez effectivement éteindre plus ou moins la lumière suivant les directions. Alors, je voudrais dire d'abord que la nébuleuse du Crabe n'a rien à voir avec la constellation du Crabe. Elle est dans la constellation du Taureau, à 1 degré à peu près de l'étoile Zeta, Tauri. Et elle a été appelée nébuleuse du Crabe par les Chinois parce qu'elle a la forme d'un crabe. Elle a été découverte en 1054, c'est-à-dire que l'explosion de l'étoile a eu lieu 5000 ans avant, mais elle a été observée pour la première fois en 1054, et pendant plusieurs semaines, on l'a vue pendant la journée. C'était une étoile extraordinairement brillante. Elle a disparu au bout de 2 ans. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a été vue au Japon, elle a été vue en Asie, elle a été vue aux États-Unis, et j'ai personnellement visité des caves au Nouveau-Mexique et dans l'Arizona, où on voit un croissant de lune avec un point extrêmement brillant à côté. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les parchemins, ou les écrits qui ont été laissés par les Chinois en 1054. Et dans le visible, effectivement, je n'ai pas amené la photo ici, vous avez des particules qui ont des énergies extrêmement élevées, de l'ordre de 10 puissance 14 électron-volts, et qui tournent dans des champs magnétiques qui sont très faibles, de l'ordre du milligauss, et ça émet du rayonnement synchrotron. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça, c'est une image prise par le satellite X, donc vous avez un nuage d'émission de rayons X, et au centre, vous avez une source extraordinairement brillante, qui est un pulsar. Alors le pulsar, c'est une étoile qui s'est effondrée, qui fait que quelques kilomètres, qui tourne sur elle-même, et donc c'est comme un phare, ça émet un pinceau de rayons X et de gamma et aussi d'ondes radio extrêmement puissant et très très fin et qu'on observe très bien dans le domaine des rayons X. Donc les rayons X ont amené énormément d'informations dans le domaine de l'astrophysique depuis quelques années. Alors on peut aussi l'obtenir dans des anneaux, et donc ce que j'ai montré tout à l'heure. Et donc il faut dire clairement que le rayonnement synchrotron a bénéficié de tout le développement de la physique des particules. Pourquoi ? Parce que si les machines, les accélérateurs n'avaient pas été créés pour la physique d'eau d'énergie, il n'y aurait pas de rayonnement synchrotron. Alors au départ, les gens qui ont commencé à faire à l'étude des particules à haute énergie. Ce qu'ils faisaient, ils avaient un accélérateur linéaire où ils émettaient des électrons avec un petit filament. Ils l'accéléraient linéairement sur plusieurs centaines de mètres et ils allaient taper sur une cible. Exactement de la même manière que si vous voulez juger la qualité du pare-choc de votre voiture ou du mur de votre voisin, bien vous foncez à 100 km à l'heure dedans et vous regardez les dégâts. Alors, il y a une manière bien meilleure de faire ça, c'est de prendre une voiture à 100 km dans un sens et l'autre comme ça. Et là, vous voyez beaucoup mieux. Et c'est exactement ce qu'a fait la physique de l'énergie. Au lieu d'avoir des accélérateurs linéaires, ils ont fait des accélérateurs circulaires. Et sur une orbite, vous avez des électrons. Sur l'autre orbite, vous avez des positrons. Et à ce moment-là, à un moment, vous les faites faire des collisions en changeant légèrement l'orbite. Et vous observez les résultats de ces collisions. Donc ça, très souvent, on nous demande, quand on a des visites à l'ESRF à Grenoble, quelle est la différence entre ce que fait le CERN et ce que vous faites vous. Nous, les particules, on n'en a rien à faire. Elles sont là et nous embêtent. Et le CERN, c'est l'inverse. Eux, le rayonnement synchrotron, ça les embête parce que ça limite l'énergie de leurs particules, mais ils n'y peuvent rien aussi. Et donc, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est les photons. Il y a aussi un problème de taille. Notre anneau, qui est déjà très gros, fait à peu près 850 mètres de circonférence. Le CERN, l'anneau, il fait 27 km. On suit déjà quand même pas la même chose. Bien. Donc voilà un petit peu l'ensemble d'accélérateurs qu'on a par exemple à Grenoble, qui est effectivement un des plus grands. Pas très net, mais bon. La qualité du projecteur n'est pas à la hauteur de l'amphithéâtre. Bon, vous avez ici un petit filament, exactement comme le filament d'une lampe. Vous faites passer du courant dedans, il émet des photons, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, il émet aussi des électrons. Ces électrons sont lents, on les accélère jusqu'à 200 millions d'électronvolts. Ensuite, on les fait passer dans une structure circulaire qu'on appelle un synchrotron. On les monte à 6 milliards d'électronvolts, et là, on les injecte dans ce grand anneau qu'on appelle un anneau de stockage. Et chaque fois que les petits paquets d'électrons qui font quelques millimètres de long vont passer dans un aimant, eh bien, ils vont être accélérés et donc ils vont émettre de la lumière, qui est la lumière synchrotron. Alors, l'avantage énorme du rayonnement synchrotron, c'est que l'ouverture du cône, de l'angle ici, dépend de la vitesse des électrons. Et avec des électrons qui font 6 milliards d'électronvolts comme les nôtres, l'ouverture du cône est très faible, c'est 0,1 milliradian, c'est-à-dire c'est à peu près l'ouverture de ce laser. Donc ça, c'est une qualité extrêmement importante du rayonnement synchrotron. Alors, dans le plan horizontal, vous perdez, parce que c'est vous qui décidez du nombre de milliradians que vous voulez prendre, mais on a trouvé des astuces pour compenser ça. Et on a trouvé des petits joujoux magnétiques qu'on appelle des onduleurs. C'est tout simplement une structure sinusoïdale de champ magnétique que l'on fait en arrangeant entre eux des aimants permanents. Vous voyez, la direction du champ est indiquée par les flèches que vous avez ici. Et vous arrivez à créer un champ, par exemple, vertical, qui est sinusoïdal, et du coup, dans le plan horizontal, les électrons vont aussi avoir un trajet sinusoïdal, et ça va complètement changer la lumière. Au lieu d'avoir ce qu'on avait tout à l'heure, avec ici un angle qui était très large, eh bien maintenant, on a un petit cône d'émission qui ressemble à celui d'un laser. Et si je vous montre effectivement un faisceau qui sort de un de ces joujoux, vous voyez ici que le faisceau diverge pour un CD hors pan. Alors, normalement, c'est des rayons X, vous ne devriez pas le voir, mais comme il y a 3 kW de puissance, ça ionise les molécules de l'air, et c'est pour ça qu'on arrive à le voir. Et ça, ça va changer considérablement les possibilités qu'on pouvait avoir par rapport au tube à rayons X. Alors, je vais vous montrer un peu les variations au cours des dernières années de ce qu'on appelle la brillance, qui est un paramètre qui est relié à la taille de la source et à la divergence, et donc, en gros, c'est la qualité optique de la source. Et vous voyez que, pendant à peu près 60 ans, les tubes en rayon X ont eu à peu près la même brillance. Et elle n'est pas très différente de ce qu'on a avec une lampe à incandescence. D'ailleurs, ce n'est pas très bon. Et puis, il y a eu quand même des gains ensuite avec les anodes tournantes, etc. On a gagné plus d'ordres de grandeur. Mais on restait quand même dans les 10 puissance 9 photons par seconde, par millimètre carré, milliradian carré, etc. Et si vous regardez le Soleil, alors pas la nouvelle machine de rayon X, que M. Alleg n'avait pas voulu, mais le vrai Soleil, normalement, il est par là. Et ça, c'est les premières machines de rayonnement synchrotron qui avaient été construites pour la physique des énergies. Donc, c'était des aimants de courbure. Et puis, ici, vous arrivez aux machines comme celle de Grenoble, où maintenant, on arrive dans les 10 puissance 21 avec les onduleurs. Et vous voyez qu'on a gagné à peu près 10 puissance 12, ce qui est énorme. Ça fait 1000 milliards par rapport à un tube à rayon X. Et c'est évident que la physique que vous allez faire est totalement différente. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on fait énormément de choses, parce que vous avez une source qui peut servir à beaucoup de communautés. Donc, on a des physiciens, voilà, physique, chimie, biologie, géophysique, sciences de l'environnement, médecine, sciences des matériaux, etc., etc. Alors, quel genre d'expérience on fait en général? Eh bien, on prend un échantillon, on va envoyer un faisceau incident. L'expérience la plus simple, c'est de faire de l'absorption. Donc, on mesure le faisceau transmis. Ça donne un certain nombre d'informations. On peut aussi regarder la fluorescence, c'est-à-dire les photons qui sont émis. On peut regarder les électrons qui sont émis, c'est la photoémission. Et puis aussi, et la plupart du temps, c'est la plupart des expériences, on va faire de la diffusion et de la diffraction, surtout de la diffraction, ou bien de la diffraction inélastique, ou de la diffusion inélastique. Alors, pour ça, je vais être obligé de parler un peu de diffraction. Alors, qu'est-ce que c'est que la diffraction? Alors, la diffraction, c'est en gros un phénomène physique qui permet de dévier la lumière. On peut dire, en gros, c'est ce qui permet à la lumière d'aller dans les coins. Alors, ça ne se produit pas tout le temps. Ça se produit uniquement si l'obstacle que vous avez ou l'ouverture que vous avez est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Il ne faut pas que ça soit trop différent. Et elle fait partie de la vie de tous les jours, et vous en rencontrez sans vous en apercevoir presque tout le temps. Par exemple, si vous laissez tomber un caillou dans une flaque d'eau, enfin dans un plan d'eau, vous voyez des ondes concentriques qui se forment, vous mettez dessus un petit bouchon de liège, et vous allez voir le bouchon de liège qui va monter et descendre avec une fréquence qui est reliée à la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux cercles concentriques. Maintenant, vous laissez tomber un deuxième caillou de la même hauteur, avec la même forme, le même poids. Et vous allez avoir à ce moment-là un phénomène d'interférence qui se produit, et les deux ondes vont être en phase. C'est-à-dire que le bouchon de liège va se déplacer deux fois plus. Par contre, si vous changez la hauteur, ou si vous changez la masse d'un des cailloux, à ce moment-là, vous pourrez arriver à être en opposition de phase, le bouchon de liège ne bougera plus. Vous trouvez ça aussi dans un port en Bretagne, par exemple, lorsque vous avez les grandes marées au mois de septembre, si vous avez deux digues avec une petite ouverture, très souvent, l'ouverture est de l'ordre de grandeur des ondes que vous pouvez avoir, des longueurs d'onde. Et si vous regardez ici ce qui se passe, par exemple, entre deux rochers, vous avez une ouverture qui fait à peu près quelques dizaines de centimètres. Et vous voyez que normalement, alors que ça devrait aller tout droit, parce que les ondes, qu'elles soient électromagnétiques ou sonores, etc., prennent toutes de la diffraction, ben vous avez un magnifique exemple de diffraction ici, et la période, la longueur d'onde, c'est tout simplement la distance entre eux. Et ça, c'est très facile à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la diffraction, elle a mis un certain temps à être admise. Le premier qui a pensé que la lumière, c'est des ondes, c'est Huygens. Il a écrit un article en 1678 sans expliquer l'origine, etc. Il faudra attendre quand même la fameuse expérience des trous de Young, ces deux têtes d'épingle éclairées par un système monochromatique, en 1801, qui montre quand même que les phénomènes de diffraction existent. Et je crois qu'il y a la théorie peut-être la plus importante à cette époque a été faite par Fresnel. En 1819, il présente un mémoire à l'Académie des sciences. Et Poisson, qui est un très très bon mathématicien, très connu, physicien aussi, va essayer de le ridiculiser en disant « Si votre théorie est exacte, je m'en sers et je fais un calcul et je montre que si vous prenez un petit disque opaque et vous l'éclairez, eh bien à ce moment-là, vous allez voir un point brillant au milieu. » Et ça n'a pas de sens. Arago a fait l'expérience quelques mois après et a montré que Fresnel avait raison. Et donc, Fresnel a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la compréhension de la diffraction dans le visible. Alors, il y a plein d'exemples. Par exemple, si vous prenez une fente et vous l'éclairez en lumière monochromatique, si la fente est grande par rapport à la longueur d'onde, il ne se passe rien, le faisceau est direct. Par contre, si la fente devient du même ordre de grandeur que la longueur d'onde, vous avez un phénomène d'interférence qui se produit avec des parties claires et opaques. Bien. Alors, dans le domaine des rayons X, c'est malheureusement plus compliqué. Alors, pourquoi c'est plus compliqué? Alors, dès le début, il y a eu la fameuse loi de Bragg. Et ce que Bragg a fait, ça a été d'envoyer des rayons X sur des monocristaux. Et les monocristaux sont des arrangements d'atomes parfaitement périodiques et ordonnés, mais qui ne se mettent pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de réseaux, ce qu'on appelle les réseaux de Bravais. Il y en a trois qui sont cubiques, les autres sont tétragonaux. C'est quand même bizarre qu'on n'arrive pas à focaliser mieux que ça, quand même. Oui, mais c'est toujours aussi mauvais. Et donc, il y a des réseaux qui sont orthorhombiques, d'autres qui sont, il y en a trois qui sont cubiques, etc. Et la structure est formée en général du réseau lui-même, par exemple, qui peut être cubique ou cubique centré ou cubique à face centrée. Le cubique centré, il y a tout simplement un atome qui est au milieu. Ça, c'est le système le plus simple où la base est formée d'un atome au sommet, mais vous pouvez avoir des bases plus compliquées avec trois atomes qui ne sont même pas au sommet, qui sont tout autour, mais qui se reproduisent parfaitement en périodicité. Et vous pouvez même avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'atomes quand on ira tout à l'heure dans les structures biologiques. Alors, dans le cas où vous avez peu d'atomes dans la maille d'unité, ce n'est pas très compliqué, vous appliquez la formule de Bragg. Et la formule de Bragg, elle dit ceci, c'est que vous avez ici les atomes qui sont représentés par des points et vous avez des plans atomiques dont la séparation est petit d. Si j'envoie des rayons avec une longueur d'onde lambda, je vais avoir une formule extrêmement simple entre, à la condition, pour avoir des interférences constructives entre un faisceau qui arrive sur ce plan-là et celui-ci qui arrive ici, la condition, ce sera que 2d sinus θ soit égal à n lambda, n c'est un entier, lambda c'est la longueur d'onde, θ c'est l'angle d'incidence, et d c'est la distance entre les plans. Alors les plans peuvent être n'importe comment, et on peut obtenir assez facilement la structure d'un cristal. Le problème, c'est que avec les structures biologiques en particulier, ça va beaucoup se compliquer. Pourquoi? Parce que vous avez des atomes qui sont différents, et qu'en général, on va perdre l'information sur la phase. C'est-à-dire que lorsque vous observez une tache sur un détecteur, une tache de diffraction, les paramètres importants sont l'amplitude, ça c'est très facile, c'est relié à l'intensité, la longueur d'onde, et la phase qui est perdue dans l'expérience de rayon X. Donc quand vous avez un système avec 300 000 atomes ou 3 millions d'atomes, c'est pas évident du tout de remonter à la phase. Et il a fallu trouver des astuces pour ça, et les astuces ont été essentiellement amenées en 58 par Perutz, qui a trouvé la structure de la myoglobine, et qui consiste à mettre un atome lourd dans votre cristal. Alors, ça ne marche pas toujours. Et si vous mettez un atome lourd, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il a beaucoup plus d'électrons, il va diffracter beaucoup plus, parce que c'est en carré du nombre d'électrons. À ce moment-là, vous allez repérer à quel endroit il se met dans le cristal, vous allez pouvoir calculer la phase. Alors, avec, en général, un seul atome lourd, ça ne résout pas votre problème. Il faudra en mettre un deuxième. Le problème aussi, c'est que dans certains cristaux, ça ne marche pas. Du coup, il y a à peu près 10 ans, il y a une nouvelle technique qui a été introduite, qui est le MAD, qui consiste toujours à mettre un atome un peu plus lourd à l'intérieur. Mais lui, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'en mettre plusieurs, on n'en met qu'un. Et la raison pour ça, c'est qu'on va jouer sur le fait qu'au voisinage d'un seuil d'absorption, les propriétés de diffraction ont changé énormément. Et donc, on va faire ça à trois longueurs d'onde, juste avant le seuil, juste au-dessus du seuil et juste au seuil. Et avec trois longueurs d'onde, on arrive à régler le problème de la phase. Et c'est d'autant plus facile que c'est très facile, en général, dans toutes ces structures biologiques, de remplacer le soufre par du sélénium. Et du coup, ce problème de phase n'est plus un très gros problème. Il l'a été pendant longtemps parce que Ça nécessite de travailler à peu près sur un EV, par exemple à 10 ou 20 keV, avec une très grosse précision. Or, il y a une dizaine d'années, le rayonnement synchrotron n'était pas très stable et le changement de longueur d'onde se faisait sans que vous le sachiez. Et donc, ce n'était pas très bon. Ça, c'est maintenant, c'est complètement réglé. Et donc, il n'y a plus beaucoup de problèmes pour trouver les structures. Bon, alors maintenant, je vais passer à des exemples concrets. Et le premier que je vais discuter, c'est le problème de les lumières cohérentes. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la source idéale, c'est le laser, car il ne diverge pas, on appelle ça la cohérence spatiale, et en même temps, il est monochromatique, il a une couleur bien déterminée, ici il est rouge, mais il pourrait être bleu, vert, etc. Et c'est ce qu'on appelle la cohérence longitudinale. Donc, les deux caractéristiques du laser, il diverge peu, et il est monochromatique. Et pendant très longtemps, on n'a toujours pas de laser dans le domaine des rayons X, mais je vous ai montré tout à l'heure que les faisceaux qui venaient de nos lumières sont très fins, ils ont une divergence qui est très faible. Il suffit de rajouter artificiellement un monochromateur pour avoir la cohérence spatiale et temporelle. Vous me direz, on peut faire ça avec un tube à rayon X. C'est vrai, mais si vous faites ça, il va vous rester 50 photons par seconde. Avec le rayonnement synchrotron, vous pouvez en avoir 10 puissance 11. Et du coup, ça permet de faire des expériences que l'on fait dans le visible avec des lasers, en particulier des hologrammes. Alors je vais vous montrer, et ça à mon avis c'est une révolution un peu dans le domaine de l'imagerie des rayons X. Alors vous prenez un faisceau qui est parallèle, donc cohérent, monochromatique, vous mettez un objet ici, et soit vous faites une mesure en collant votre détecteur juste derrière l'échantillon. Ça c'est une mesure normale d'absorption en rayons X. Ensuite vous vous éloignez. Et si vous allez très loin, par exemple 1 ou 2 mètres dans le cadre de l'ESRF, des expériences que l'on fait nous, vous êtes à ce moment-là dans ce qu'on appelle la zone de Fraunhofer, d'après un physicien allemand très connu, où on peut considérer, vu la distance, qu'on a une onde plane. Et ça veut dire qu'on peut faire un hologramme. Et puis, entre les deux, vous avez la diffraction de Fresnel, qui est beaucoup plus compliquée à calculer, et où, en gros, on va essentiellement augmenter le contraste entre l'échantillon et l'air. Donc vous voyez, on va faire 3 expériences. On va se coller à l'échantillon, on va se mettre à peu près ici à 50 cm, ou on va se mettre 1 ou 2 mètres ici. Et vous allez voir qu'on va avoir des résultats qui vont être très très différents. Alors le premier résultat, c'est sur un cristal, je crois qu'il y a eu une conférence il y a 2 jours ici là-dessus, c'est les quasicristaux, que je ne vais pas discuter en détail. Alors ici, vous avez une image faite en topographie. La topographie, c'est une méthode de diffraction qui permet de mettre en évidence les défauts ou les dislocations dans les cristaux. Et là, vous voyez, effectivement, il y a des espèces de bulles à l'intérieur de votre cristal, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et ça, c'est la meilleure image qu'on puisse avoir. Si maintenant, je fais une image en contraste de phase, voilà ce que j'ai, et ça n'a plus rien à voir, vous voyez que maintenant, on a accru le contraste à l'interface, et maintenant, on distingue très nettement des dodécaèdres, et non seulement on les distingue, mais on voit les différentes faces à l'intérieur du dodécaèdre comme c'est représenté ici. Et ça, il n'y a aucune technique actuellement qui permettait de voir ce genre de choses. C'est vraiment un domaine totalement nouveau. Et donc, ça permet d'étudier énormément de défauts, ou bien d'intérieur de solides, qui, en particulier, ne sont pas absorbés par les rayons X. Et je crois que le plus bel exemple que je peux vous montrer, c'est celui-ci. Voilà une mousse de polymère qui a été faite à 18 kV. Alors les polymères, c'est fait d'éléments légers, il y a du carbone, l'hydrogène, et en général, ça n'absorbe pas les rayons X. Donc, voilà l'image que vous avez ici lorsque vous faites une image normale d'absorption. Vous n'avez rien. Le point noir qui est là, c'est simplement un défaut dans le détecteur. Et au fur et à mesure que vous vous éloignez, vous observez les phénomènes d'interférence qui interviennent. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre 700 images en faisant tourner l'échantillon pour reconstituer à 3 dimensions l'image de l'échantillon. Alors, les premières manips qui ont été faites il y a 1 an et demi demandaient 24 heures. Maintenant, on le fait en 1 heure. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez comparer ce qu'on a ici en absorption, c'est-à-dire rien. Et maintenant, ce que vous avez ici, vous avez un hologramme, une holotomographie, c'est-à-dire que vous avez un objet à 3 dimensions, et on voit à l'intérieur tout le vide qu'il y a dans la mousse. Alors ça a beaucoup d'applications pour l'industrie, c'est clair, Donc on a beaucoup de compagnies industrielles. Et la résolution est limitée typiquement par le détecteur, elle est de l'ordre du micron, donc un millième de millimètre. Et vous voyez ici, ce qui est représenté ici, c'est ça, et ça, ça vaut à peu près 10 microns. Donc là, ça ouvre des possibilités qui sont énormes. Dans beaucoup de domaines, voilà un exemple qui a été fait aussi sur de la neige par le Centre de glaciologie de Grenoble. Et ça, ils n'avaient pas de technique avant, parce que la neige aussi, c'est de l'eau, donc ça absorbe très peu les rayons X. Et donc vous avez trois types de neige suivant les conditions différentes, la quantité d'eau qu'il y a dedans, etc., et de la température. Et on arrive à étudier la friction à l'intérieur entre les grains pour les problèmes d'avalanche. Donc ça, c'est un domaine qui est en train de se développer énormément. Il me reste combien de temps, à peu près ? 20 minutes, un quart d'heure ?
Un quart d'heure.
Oui. Et on a construit une ligne médicale qui est liée à l'hôpital de Grenoble. On a fait un certain nombre d'expériences et depuis le début de l'année, on a mis sous faisceau des patients. Alors pour ça, on peut faire trois types d'expériences, de l'angiographie coronarienne, la tomographie du cerveau, la thérapie avec des microfaisceaux, la mammographie et des radiographies des poumons. Alors l'idée, c'est d'essayer de faire mieux qu'à l'hôpital, mais évidemment, ça restera toujours un outil de recherche, parce que même si on a 300 ou 500 patients par an, ça n'ira pas au-delà de ça. Donc on a ici une chaise qui permet de mettre un patient, on peut le faire déplacer de 1 mètre par seconde dans toutes les positions. En général, c'est des gens qui sont cardiaques, donc on fait attention quand même. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une radiographie du cœur, vous n'avez qu'une solution à l'hôpital, c'est d'introduire un cathéter qu'on met dans l'artère fémorale et qu'on fait remonter dans le cœur. Alors, ça a deux défauts. Le premier, c'est que ce n'est pas très bon pour le patient s'il a des gros problèmes cardiaques. Deuxièmement, on injecte à ce moment-là une grosse quantité d'iode et un certain nombre de gens qui sont allergiques à l'iode en forte quantité, et la mortalité est élevée. Elle est actuellement de quelques pour 10 000, ce qui est quand même assez élevé. L'idée ici est totalement différente, c'est d'exploiter le rayonnement synchrotron par le fait qu'on peut prendre des images très vite, en quelques millisecondes, donc le cœur ne bouge pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter des très petites quantités d'iode sans mettre un cathéter dans l'artère fémorale. On va simplement injecter un peu d'iode dans le bras. Il faut 13 secondes pour que ça remonte au cœur. Et à ce moment-là, on prend une image. Alors ça, c'est un cochon qu'on avait mis sous faisceau l'année dernière, qui pesait à peu près une cinquantaine de kilos. Et vous voyez ici, on a une très très bonne image. Vous avez l'aorte, l'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche. On a eu l'autorisation en début d'année de mettre des patients. Et on arrive maintenant à faire des images d'excellente qualité. Voilà, par exemple, ici. En général, ce qui se passe, c'est que le patient, le matin, vient chez nous, et ensuite, il va à l'hôpital. En général, il préfère venir chez nous. Pas pour les mêmes raisons, d'ailleurs, parce que dans la phase de la première année, ils sont obligés de vérifier ce qu'ils ont trouvé chez nous. Chez nous, l'opération ne dure pas très longtemps. Actuellement, ça dure à peu près 30-40 minutes. C'est plus la préparation du patient. Et les images sont faites ensuite très rapidement. Ce n'est pas douloureux. Et à la fin, on boit le champagne. Pour l'instant, à l'hôpital, en général, ça dure plus longtemps et ça laisse plus de traces. Alors, à la fin de l'année, il n'y aura plus d'examen. Par contre, sur le troisième patient, il était tellement en mauvais état que dans l'après-midi, il passait sur le billard pour être opéré. En général, qu'est-ce qu'on cherche à voir sur les premiers patients, ce qu'ils cherchaient à voir, c'est les petits. En fait, ils mettent des petits ressorts à l'intérieur et pour voir si ce n'est pas bouché. Et donc, on arrive à suivre très bien et en fonction de ça, ils prennent une décision immédiate pour si le patient doit être opéré ou pas opéré, etc. Je dirais que dans le domaine de la mammographie, le gros intérêt, c'est le fait qu'on peut détecter, nous, des nodules qui font à peu près quelques microns, alors qu'à l'hôpital, actuellement, c'est plutôt de l'ordre du millimètre, ou 800 microns. Et 800 microns ou 1 millimètre, ça peut être un peu tard. Donc, je dirais que ça reste quand même un outil de recherche. C'est pas demain la veille qu'on aura 300 000 personnes qui viendront sur le site. Bon. Finalement, je voudrais dire deux mots sur les autres pressions. Ça, c'est un domaine qui intéresse l'astrophysique. particulier les planètes géantes, Mars, Jupiter, qui sont formées essentiellement d'hydrogène et d'hélium, la géophysique et la science des matériaux. Alors, pourquoi on s'intéresse aux hautes pressions ? D'abord parce qu'en faisant ça, on change considérablement l'interaction entre les atomes, donc les propriétés physiques et chimiques. Et pour obtenir des pressions extrêmement élevées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux petits diamants, qui sont tout petits, hein, qui font entre 0,1 et 0,5 carats, qui ne valent pas très cher. Hein, c'est pas... Vous pouvez piquer ça à votre femme très facilement, et ça n'apercevra pas. Et on met deux diamants l'un en face de l'autre, on met à ce moment-là un joint métallique, et on applique une force, comme la pression, c'est une force par une surface. Pour obtenir des pressions très élevées, eh bien, il faudra que la surface soit faible. Et donc, les diamants, en général, permettent d'obtenir des pressions qui atteignent maintenant à peu près 3,5 millions d'atmosphères. C'est la pression qu'il y a au centre de la Terre. Et ça, c'est possible que depuis à peu près 5 ou 10 ans. Et si en même temps on veut chauffer, on peut envoyer des lasers ou faire des chauffages électriques et monter en même temps la température. Alors, la raison pour laquelle c'est important, c'est que les modèles qu'on en a actuellement de la Terre sont les suivants. Vous avez ici la lithosphère, ensuite le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau externe, le noyau interne. Dans le noyau interne, on sait qu'à peu près la pression est de l'ordre de 3,5 millions d'atmosphères, ce qui fait 350 gigapascal, et que la température est de 6 000 ou 6 400 degrés. Ensuite, il y a une phase liquide ici, qui est essentiellement du fer, mais il y a un peu de nickel. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la phase solide qui donne le champ magnétique terrestre, c'est la phase liquide qui est ici. Et à peu près tous les millions d'années, c'est un effet dynamo, ça change de sens, on l'a retrouvé par des fossiles qu'on a retrouvés, etc. Ça doit pas mal perturber un certain nombre d'animaux, peut-être les humains aussi d'ailleurs, mais ça se produit tous les millions d'années, donc on n'a pas tellement l'occasion de s'en apercevoir. Ensuite, vous avez toute la partie roche, et c'est extrêmement important de vérifier ces modèles, parce que tout ce qui est éruption volcanique ou mouvement de plaques, c'est relié un peu à ce modèle-là. Et ce modèle vient essentiellement d'ondes sismiques. Il y a des détecteurs partout autour de la Terre. À chaque fois qu'il y a des tremblements de terre, on enregistre les ondes qui sont soit diffusées, soit réfléchies par les différentes parties de la Terre. Et c'est à la suite de ça qu'on a à peu près construit ce modèle. Mais un modèle qui est basé sur un type d'expérience, c'est toujours mauvais. Donc les gens essaient de reproduire en laboratoire, par exemple, ce qui se passe si on soumet du fer aux pressions qu'on a ici. Je dirai un mot tout à l'heure là-dessus. Alors, c'est un peu pareil pour ce qui se passe dans nos planètes. Et voilà ici, par exemple, pour Jupiter. On pensait jusqu'à maintenant qu'il y avait un cœur. Ensuite, il y a l'hydrogène atomique qui est métallique, une couche d'hydrogène moléculaire qui est aussi métallique, et finalement, de l'hydrogène moléculaire qui est isolant. Et ça, ça fait à peu près 17 000 km. Et pendant des années, tout le monde a cru à ce modèle-là. Et puis, il y a eu un petit engin qui a été envoyé autour de Jupiter. On a mesuré le champ magnétique de Jupiter. Et on s'est aperçu qu'il est 20 fois supérieur à ce que prédit ce modèle. Ce qui veut dire que clairement, il y a un problème. Donc, c'est extrêmement important d'essayer de reproduire en laboratoire. Alors, regardons le cas de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, presque tous les grands théoriciens de physique des solides depuis 60-70 ans ont tous prédit qu'entre 2 et 3 millions d'atmosphères, donc 2 ou 300 gigapascal, l'hydrogène devrait devenir métallique et supraconducteur à la température ambiante. Bon, ça ne servira pas à grand-chose, parce que sous ces pressions-là, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais c'était quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça a beaucoup excité les expérimentateurs. Et il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas vrai. En tout cas, dans cette gamme de pression. Maintenant, on en verra tout à l'heure. Alors, la raison pour laquelle les expériences en rayon X sont difficiles, c'est que la diffraction, c'est proportionnel au nombre du carré d'électrons, et l'hydrogène n'en a qu'un. Donc, pendant très longtemps, on était incapable de voir les rayons de l'hydrogène en rayon X. Alors, il y a une équipe française qui a fait des expériences, et à l'époque, il y a une dizaine d'années, on pensait que le modèle proposé était le suivant. Là, vous avez l'hydrogène qui est moléculaire, donc vous avez deux atomes liés entre eux, ça c'est la phase gazeuse. Ensuite, dès que vous appliquez de la pression, vous avez une phase hexagonale, et les molécules d'hydrogène sont n'importe comment. Elles ne sont pas orientées. Ensuite, on pensait avoir une phase cubique, ensuite, à plus haute pression, une phase hexagonale, et on ne savait pas à l'époque si les molécules seraient alignées le long de l'axe de l'hexagone ou perpendiculaires. Et finalement, il devait y avoir la phase métallique. Alors, il y a une équipe parisienne, Loubert et Le Toulec, qui ont trouvé une astuce assez extraordinaire. En général, quand vous soumettez des cristaux d'hydrogène à des très hautes pressions, au-delà de 300 kilobars, donc, ils explosent. Et l'astuce qu'ils ont imaginée, c'était de mélanger de l'hydrogène et de l'hélium. Et l'hydrogène et l'hélium sous pression sont pas miscibles. Et à ce moment-là, l'extérieur ici, c'est l'hélium. Il va servir de coussin hydrostatique, va éviter les contraintes et le cristal n'explose pas. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que d'abord, la compressivité de l'hydrogène était très nettement supérieure à tout ce que donnait la théorie. Et vous voyez le même échantillon ici, ça c'est à 14 gigapascal, ça c'est à 120 gigapascal, donc 1,2 million d'atmosphères. Et vous voyez que la taille du cristal, qui est toujours le même, a sérieusement diminué. Et les résultats ont montré que cette phase-là n'existait pas, celle-ci était fausse, celle-ci aussi, et que la bonne phase, c'est celle-là. Et enfin, la phase métallique, je n'ai pas le temps d'en discuter, pour l'instant, on est certain qu'elle est repoussée au moins à 500 ou 600 gigapascal, et non pas dans la gamme des 2 ou 3 gigapascal. Bien. Alors, je voudrais quand même dire un mot aussi, avant de terminer sur la biologie, c'est qu'on a cherché aussi à regarder, et ça, c'est une équipe suédoise, c'est des résultats très récents, c'est d'essayer ce qui se passe, de regarder ce qui se passe au centre de la Terre. Et donc, ça, c'est des expériences qui ont été faites à 3,5 gigapascal. Donc, c'est pas, le centre de la Terre, c'est 3,5, donc on n'est quand même pas très loin. Par contre, la température n'est que 1200 degrés. Alors, pourquoi ? Parce que c'est impossible de chauffer suffisamment haut en même temps et d'appliquer une autre pression, parce que sinon, vous faites fondre les diamants. Le diamètre que vous avez ici pour l'échantillon est typiquement de l'ordre de 10 microns, 15 microns. Il faut que le faisceau soit plus petit que ça. Et donc, si en même temps vous chauffez avec un faisceau laser, ce que vous faites en général, vous fondez les diamants. Donc, on est incapable actuellement de reproduire en même temps les conditions de pression et de température qu'il y a au centre de la Terre. Mais on est quand même à la limite entre le fer solide et le fer liquide, ce qui est quand même déjà assez remarquable. Et il est possible, d'ici quelques années, on y arrive. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les gens essayent en même temps de fabriquer des matériaux qui soient aussi durs que le diamant. Alors, c'est toujours la même chose. Ils essayent de le faire à partir de carbone, d'azote et de bore, et de les combiner ensemble pour former des nouvelles phases, comme BC2N, de façon à trouver des matériaux qui soient aussi solides que le diamant. Alors, ça se fait à haute pression et haute température, mais je n'ai pas le temps de discuter ça. Bon, finalement, le dernier point, il me reste 5 minutes, je crois, c'est les structures d'ensemble biologique. Alors ça, c'est quelque chose qui a pris un développement considérable depuis à peu près 10 ans. Ça représente à peu près aujourd'hui 30 à 35% de ce qui se fait chez nous et dans tous les laboratoires de rayonnement synchrotron au monde. Et je vais vous essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, la première question, les structures biologiques, contrairement au silicium ou à des composés très simples, en général, il suffit, voilà la cellule élémentaire, il suffit de connaître la position de deux atomes, celui-ci et celui-là, pour reproduire à trois dimensions votre cristal. Ça, c'est très simple, parce que vous avez deux atomes par cellule unité. Dans certains exemples que je vais vous montrer, il y en a 10 millions ou 20 millions. Donc, c'est clair, c'est pas du tout le même monde, et c'est beaucoup plus compliqué. Alors, première chose, pourquoi est-ce qu'il faut connaître la structure d'une protéine ou d'un virus ? Eh bien, on sait aujourd'hui qu'il y a une relation entre la structure à trois dimensions et la structure biologique, qui fait que si vous voulez faire un nouveau médicament, vous avez tout intérêt à voir la structure. Actuellement, un nouveau médicament coûte à peu près 6 milliards, et les compagnies industrielles ont de moins en moins tendance à le faire d'une manière empirique. L'idéal, ça serait d'être capable de calculer la structure, on n'en est pas capable actuellement, donc on est obligé de la mesurer. Donc on peut dire que tous les groupes pharmaceutiques européens, Glaxo, Wellcome, Hoffmann-La Roche, etc., Zeneca travaille chez nous régulièrement, et on va probablement monter une compagnie sur le site, un laboratoire sur le site, avec ces compagnies industrielles. Alors, pendant très longtemps, on n'était pas certain que le cristal avait la même fonction biologique que la phase liquide, parce que dans le corps humain, c'est quand même la phase liquide qui est importante. Alors ça, ça a été démontré en particulier sur les enzymes, et je crois que maintenant tout le monde l'admet. Alors comment est-ce qu'on peut déterminer la structure? Il y a deux techniques actuellement. Quand il s'agit de petites protéines, on le fait beaucoup par résonance magnétique nucléaire, j'en parlerai pas, et la deuxième possibilité, c'est par rayon X. Alors les premiers clichés de protéines ont été obtenus à Cambridge en 1934. Cambridge a joué un rôle extrêmement important dans le développement de la biologie structurale. Et il a fallu à peu près 20 ans pour qu'on arrive à les interpréter. Et il y a la fameuse ADN découverte, dont la structure a été découverte en 1953 par Crick et Watson. Et puis il y a l'hémoglobine par Marc Perutz en 1957 et celle de la myoglobine presque en même temps par Kendo. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce que, en général, les protéines ou les virus sont faites à partir toujours des mêmes matériaux qui sont les acides aminés et les nucléotides. Alors, les acides aminés sont formés essentiellement d'atomes de carbone, il y en a 20 dans le corps humain, sont formés par des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, puis il y a quelques autres composantes, en entendant du phosphore, du soufre, etc. Et ça représente quelques dizaines d'atomes. Et nucléotide, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est très facile à déterminer la structure, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous allez passer à des systèmes plus compliqués, parce que très rapidement, ces chaînes vont former soit des hélices, soit des feuillets. Et ensuite, vous avez, par exemple, la double hélice de l'ADN, et les protéines vont être formées en général, soit uniquement d'hélices, soit avec des feuillets. Et là, vous allez passer donc de quelques dizaines d'atomes, quelques milliers d'atomes, quelques dizaines de milliers d'atomes. Et finalement, vous avez les virus, qui, eux, vont être formés d'ADN ou d'ARN, en plus des protéines, et là, on va atteindre typiquement 5, 10, 20 millions d'atomes par cellule unité. Donc, c'est des systèmes gigantesques. Et ça a été pendant assez longtemps difficile d'arriver à obtenir les structures. Alors, il y a quelques années, en 1995, on s'était fixé quelques challenges à l'ECRF. Le premier, c'était d'avoir la structure du nucléosome. Alors ça, c'est une structure élémentaire de la chromatine. C'est la manière dont les protéines se replient dans le chromosome. Et c'est formé à peu près de 200 paires de bases d'ADN. Et il y a à peu près aussi 8 histones à l'intérieur. Ça a un diamètre de 150 angstroms. Il y a à peu près 300 000 atomes. Et l'équipe qui travaillait dessus, celle de Richmond, avait d'abord été à Cambridge, ensuite est passée à Zurich, et ça faisait 12 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Et la seule raison pour laquelle ils ont été capables de résoudre la structure qui est montrée ici, vous avez ici la double hélice de l'ADN et les histones qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'on a été capable de leur fournir un faisceau qui faisait à peu près 10 microns. Or, il y a un principe très simple quand on fait pousser des cristaux biologiques. En général, il faut 6 mois pour les obtenir. Pas toujours, mais ça peut être 6 mois ou un an. Ils sont très fragiles. Et leur qualité dépend beaucoup de la taille. C'est-à-dire que si la taille est trop grosse, la qualité est très mauvaise, c'est bourré de marques, et la résolution ultime que vous pouvez avoir est très mauvaise. Or, si elle est de 5 angstroms, vous plantez en général sur l'interprétation de la séquence des acides aminés, et c'est très mauvais. Et là, ils ont été capables de descendre la résolution à 1,8 angstroms, et maintenant, on a la structure complète du nucléosome. Alors, un des autres challenges, c'était les très très gros virus. Et je vais vous montrer un très bel exemple du virus de la langue bleue qui a un diamètre externe d'à peu près de 1500 angstroms par 1100 par 1100, qui est le plus gros virus qui a jamais été résolu. Et je ne sais pas si on le verra très bien. Ça, c'est uniquement le noyau qui fait 800 angstroms. Et donc, vous voyez toutes les petites hélices qui forment les protéines à l'intérieur. Et l'équipe travaillait là-dessus depuis 15 ans. Il y a 22 millions d'atomes dans la cellule unité. Et si vous prenez la structure complète, elle a fait la couverture de Nature, la voilà ici, et bon, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors ça, c'est un virus qui atteint les ruminants, qui n'atteint pas l'homme pour l'instant, mais on ne sait jamais. Et donc l'équipe actuellement, qui a résolu la structure, est en train de travailler à un médicament pour ça. Et bon, le troisième challenge, qui est le ribosome, qui est la fabrique des protéines du corps humain. Ça, c'est un des plus gros challenges des structures biologiques. Il y a eu 3 équipes américaines l'année dernière qui ont été un peu plus vite que nous et qui ont amené la résolution à 5,5, mais c'est insuffisant pour avoir une vue précise. Et actuellement, à l'ESRF, il y a 2 équipes, dont une partie de l'équipe américaine qui est passée à Cambridge maintenant, ça arrive de temps en temps, qui est descendue à 3,8 angstroms et l'autre partie à 2,4. Donc je dirais que d'ici 1 ou 2 ans, il y aura probablement la structure du ribosome. Donc, le dernier petit point, c'est qu'on peut aussi maintenant faire des expériences résolues dans le temps. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a des petits paquets d'électrons qui font quelques millimètres de long, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, donc ils vont émettre un pulse lumineux qui fait à peu près 100 picosecondes. Et pendant ce temps-là, on est capable de faire un cliché de la Way. Voilà un cliché de la Way qui a été obtenu à peu près en 100 picosecondes. Et on peut remonter à la structure correspondant à ce cliché. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la myoglobine qui peut fixer dans le sang soit l'oxygène, soit le monoxyde de carbone. Il vaut mieux que ce soit de l'oxygène, d'ailleurs. Et on a donc fixé une molécule de CO. Alors, vous avez la myoglobine est formée, c'est une structure très simple, c'est la première qui a été résolue après l'ADN par Perutz. Elle est formée de 8 hélices, et au milieu, vous avez un M, et au centre de l'M, vous avez un fer divalent, c'est lui qui va fixer soit l'oxygène, soit le CO. À ce moment-là, vous allez prendre un laser visible très rapide, un laser femtoseconde, et vous allez casser, en choisissant l'énergie, vous allez casser la liaison entre le fer et le CO. Et immédiatement après, vous envoyez un pulse de rayon X et vous étudiez la structure. Donc ça, c'est l'instant T égale 0. À l'instant, à 4 milliardièmes de seconde après, vous voyez que la molécule s'est coupée du fer et s'est retournée de 90 degrés. Vous voyez que le vert était vertical, maintenant il est horizontal. Il s'est déplacé de 4 angstroms. Et une microseconde après, la molécule de CO a disparu. Donc on peut faire maintenant un film de ce qui se passe à l'intérieur de la molécule. L'idéal, ça serait d'être capable d'aller à 50 femtosecondes. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le faire. Donc je vais m'arrêter un peu ici. Je voudrais dire qu'en conclusion, c'est qu'on assiste depuis quelques années à un énorme développement des rayons X, dû au rayonnement synchrotron, dû aussi à certains lasers. Il ne faut pas oublier que le rayonnement synchrotron, c'est un outil parmi beaucoup d'autres. Et quand on étudie du magnétisme, il faut 3 ou 4 autres techniques additionnées à ça pour avoir des résultats qui permettent de résoudre un problème physique. Finalement, je voudrais dire aussi que je dédie un peu ce séminaire au professeur Guigné, qui est mort il y a quelques semaines, qui a été un des pionniers des rayons X en France et qui a écrit un merveilleux bouquin dont la plupart des étudiants, comme moi, se sont inspirés il y a très très longtemps. Et je l'ai eu quand je suis rentré à la fac, je devais avoir 16 ou 17 ans, et la première année, j'ai eu Guigné comme professeur. Et j'avoue que, bon, après, je l'ai retrouvé en physique des solides à Orsay. C'est quelqu'un, à mon avis, qui a joué un très grand rôle pour le développement des rayons X. Merci.
Bonjour monsieur, ce n'est pas une vraie question, c'est simplement je voudrais savoir si la visite à l'ESFR peut se faire en groupe ou individuellement et en profiter pour rappeler qu'une visite du CERN, comme l'avait proposé monsieur Trey, sera organisée très probablement la première semaine de novembre, un jour de semaine, et que les gens qui sont intéressés peuvent trouver des coupons avec mon nom et mes coordonnées sur les tables à l'entrée. Voilà, merci.
Alors je peux répondre qu'effectivement nous organisons énormément de visites, soit sous forme de portes ouvertes qui se produisent à peu près tous les ans ou tous les 2 ans, mais presque tous les jours nous avons des visites de groupe, soit de jeunes lycéens ou d'élèves de grandes écoles ou d'autres organisations. Donc il suffit de prendre contact avec le SRF et on vous organisera une visite sans problème.
Bonsoir monsieur. Le soleil, c'est moi.
Oui, oui.
Le soleil, il a été observé il y a à peu près un an lors de l'éclipse du 11 août 1999. Il a dû être observé par les rayons. Et qu'est-ce qu'on en a vu ? Vous pouvez nous en parler ou pas, s'il vous plaît ?
Attendez, vous parlez de...
Les rayonnements ont permis d'observer le soleil, même s'il a été éclipsé par la Lune.
Oui, en général, ce qu'on essaye d'étudier à ce moment-là, c'est les éruptions qu'il y a au-dessus du soleil. Ça permet d'étudier le champ magnétique du soleil et aussi les températures qu'on a beaucoup du mal à comprendre parce que la température qu'il y a sur la surface du soleil, c'est 6000 K. Et quand on monte en hauteur à 500 000 km, la température peut atteindre 1 million de degrés. Et ça, c'est des choses que pendant très longtemps, on n'a pas très bien compris, qu'on commence à mieux comprendre aujourd'hui.
Monsieur.
Mais je ne suis pas un spécialiste d'astrophysique.
Bonsoir. Est-ce qu'il a été prouvé à 100% que les micro-ondes des portables ne sont pas nocifs à la santé ? Merci.
Moi, je n'ai pas dit qu'ils étaient nuisibles à la santé, ils sont nuisibles à la santé des gens. Pour le fait que quand j'ai pris le train ce matin, j'ai été entouré par trois personnes qui n'ont pas arrêté de parler pendant trois quarts d'heure au téléphone, et c'est ça que j'appelle nuisible. La partie micro-ondes, à moins d'être... C'est quelqu'un qui passe trois heures par jour avec son portable, si la puissance du portable est assez forte, elle ne doit pas être totalement négligeable. Mais bon, les micro-ondes, on s'est aperçu uniquement au bout de quelques années, aux États-Unis, que quand ils fuyaient, c'était quand même pas très bon pour la santé. Donc en général, c'est un peu comme les rayons X, il y a toujours un décalage d'une dizaine d'années avant qu'on s'aperçoive que ça peut... Les micro-ondes, dans un four qui est régulièrement contrôlé, n'a pas de problème. Mais quand on a commencé à faire les rayons X sur des patients humains, on a été visiter les hôpitaux français. Et la première question que j'ai posée à mes collègues médecins, vous calibrez tous les combien vos tubes à rayons X ? Et on m'a répondu, calibrer ? Ça veut dire quoi ça ? Et on s'aperçoit que vous avez des tubes à rayons X dans les hôpitaux qui ont 5 ou 10 ans, et la calibration n'a jamais été refaite. Or la dose, il y a eu d'ailleurs, je crois, c'est dans Que Choisir, un rapport l'année dernière où on montrait que, suivant les hôpitaux, les doses qu'on pouvait mettre sur les patients pouvaient varier d'un facteur 5 ou 10. Et donc, c'est clair que, de ce côté-là, on est certainement, nous, étant donné qu'on a un laboratoire de recherche, 10 fois plus contrôlé qu'un hôpital. À savoir que la dose qu'on met sur les patients, qui est plus faible que l'hôpital, est affichée en permanence et vérifiée en permanence aussi.
Moi, je voulais savoir comment vous reliez les photons et la fluorescence, l'observation de la fluorescence avec les énergies du synchrotron. Parce qu'en fait, c'est quand même pas les mêmes domaines d'énergie.
Le synchrotron, il émet dans une gamme qui va depuis les ondes millimétriques jusqu'au gamma. Donc, à partir de là, si vous envoyez 10 kV, vous allez voir tous les niveaux d'énergie qui sont inférieurs à 10 kV, qui vont sortir en fluorescence. Si vous allez à 250 kV, vous allez voir tous les autres niveaux qui sont en dessous. Vous choisissez ce que vous voulez faire.
Vous balayez exactement, oui, vous choisissez exactement.
Il y a des gens chez nous qui travaillent à 500 EV, d'autres qui travaillent à 3 kV, d'autres qui travaillent à 8 ou 10 kV, d'autres qui travaillent à 50 ou à 500 kV, ça dépend. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez regarder.
Monsieur ?
Oui. Ouais, c'est la suite de la question sur le micro-ondes, ici. Oui. Et donc, je voudrais savoir si ça chauffe un petit peu la cervelle de ceux qui l'utilisent et s'il y a d'autres choses qui sont connues, par exemple les rayonnements, qui détruisent une petite partie de certaines cellules.
Ouais, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense que même un physicien dans le domaine qu'il connaît bien, il sort suffisamment de bêtises dans son domaine pour ne pas aller à regarder les autres domaines. Je dirais que dans le domaine des rayons X, c'est clair que, contrairement à la RMN, c'est quand même une source ionisante, et ça veut dire qu'il faut faire très attention aux doses que l'on donne aux patients. Moi, je dirais que c'est très souvent les médecins eux-mêmes qui ne font pas trop attention et qui se ramassent des doses qui ne sont pas négligeables. Moi, je suis un peu étonné quelquefois de voir dans les hôpitaux. Il y a toujours un peu de diffusion qui peut se produire, etc. Et je trouve que les précautions ne sont pas... Par contre, les règles européennes qu'il y a maintenant, par exemple dans nos laboratoires, font que on ne doit pas dépasser dans les halls d'expérience 0,5 microsievert par heure. Alors ça, on ne sait plus le mesurer par des détecteurs portables. Jusqu'à cette année, c'était 2,5 microsievert, ça vient de descendre à 0,5 microsievert par heure. C'est tellement faible qu'on n'a pas de détecteur portable. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, si vous allez skier à Champs-Rousses ou l'Alpe d'Huez pendant une journée, la dose que vous ramassez, c'est 1000 fois ça. Et si vous prenez l'avion entre Paris et Grenoble, ce que je ne fais pas, je préfère prendre le train, c'est pareil. Il faut savoir que chaque fois que vous prenez l'avion, les doses de radiation que vous ramassez, c'est pas important, mais ça existe. Mais en général, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup.
Vous avez parlé tout à l'heure de la précision dans votre laboratoire de l'examen de mammographie. Et je voulais savoir, pour pouvoir bénéficier d'un tel examen, est-ce que c'est possible, par exemple, que...
Non, alors pour l'instant, les seuls patients qu'on examine actuellement, c'est l'angiographie coronarienne, parce que pour chaque nouveau sujet de traitement, on est obligé de passer par un protocole qui est extrêmement long, qui dure 2 ou 3 ans. Et donc, des mammographies sur des patients humains, on ne les fera pas avant 2-3 ans, parce qu'il y a tout un processus, une partie bureaucratique et une autre partie bureaucratique, ça doit passer dans les ministères, et là, il y a des commissions qui se réunissent pas très souvent. Donc ça met du temps, ça met 10 mois ou 15 mois. Mais en même temps, je dirais qu'il y a des protocoles, il y a des précautions à prendre qui fait que pour l'angiographie, ça a duré 2-3 ans, et pour la mammographie, ça sera à peu près pareil.
Voilà. Alors notre dernière question, monsieur.
Oui, je voudrais savoir pourquoi vous avez voulu donner aux électrons l'aspect ondulatoire.
Pourquoi on leur donne cet aspect ondulatoire?
Oui, dans quel but?
Parce que c'est ça qui va permettre de concentrer le faisceau dans un cône très étroit. C'est à cause de ça qu'on le fait. Et les excursions sont très faibles. Hein. C'est de l'ordre de 30 ou 40 microns.
Et donc,
Par contre, si on donnait une excursion beaucoup plus grande, ouais, à ce moment-là, vous perdez l'avantage de ça et le faisceau s'ouvre.
Et dans ce cas-là, il n'y a pas, comment on appelle ça, interaction avec le phénomène quantique qui postule déjà que l'électron a
non,
déjà...
Non, mais on n'est pas du tout dans le phénomène quantique, là.
C'est dans quel...
Là, pour la... on parle de 50 microns, si vous voulez, donc... Là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a rien de quantique là-dedans.
Bien, merci beaucoup.